Allez, bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer ce culte. Il est 10 heures. Voilà. J'aimerais introduire ce moment avec simplement le psaume 100 qui dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Je voudrais qu'on puisse se tenir debout et entonner ce chant. D'où est tiré le psaume 100, ce chant est tiré du psaume 100, il ne faut pas dire le contraire, qui dit « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. » Tenons-nous debout. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes portes, dans tes parvis, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges, avec des louanges. Devant toi me voici. Avec des louanges, avec des louanges. Devant toi me voici. C'est vraiment vers toi, Seigneur, que nous voulons pousser nos cris de joie, éternel Dieu. Parce que tu es celui, Seigneur, en qui nous avons pleinement confiance, éternel Dieu, et qui nous donne vraiment d'abondantes joies, éternel Dieu. Vraiment, Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et effectivement, Seigneur, nous préférons, Seigneur, nous tenir dans ta maison, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que c'est là qu'il y a la paix, c'est là qu'il y a la sécurité, c'est là qu'il y a la joie, éternel Dieu, le pardon, la guérison. Alors merci, Seigneur. Merci d'être le Dieu que tu es. Amour qui s'est donné, Seigneur, pour nous, qui n'a pas hésité à prendre forme, Seigneur, humaine, éternel Dieu, et mourir sur la croix, éternel Dieu, pour que nous soyons vraiment de nouveau réconciliés avec toi. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous donnes. Et nous voulons vraiment te servir avec joie, te louer avec joie. Vraiment, Seigneur, faire monter vers toi, Seigneur, nos louanges et notre adoration, parce que tu le mérites, éternel Dieu. Auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière, éternel Dieu. Merci, Seigneur, parce que c'est ce que tu opères en chacun de tes enfants, éternel Dieu. Que vraiment, Seigneur, toute la gloire te revienne à travers ce culte. Que vraiment, Seigneur, tu puisses te glorifier. Que nos vies te glorifient. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vraiment exalter le saint nom de notre Dieu. Ce nom qui est si merveilleux. Et l'univers entier se joint à nous, en fait, en ce matin. Les anges aussi chantent sa gloire, la gloire de son saint nom. Et nous qui avons une position bien supérieure aux anges et à toute la création, nous voulons aussi exalter notre Seigneur. Amen.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Encore une fois, il est exalté.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Reprenons, il est Seigneur.
Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Il est exalté.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Alléluia. Oui, Seigneur, tu es exalté, Seigneur. Tu règnes, Seigneur, dans les lieux célestes, éternel Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous t'adorons, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, que nous t'élevons, éternel Dieu. C'est pour cela que nous te louons, éternel Dieu. Parce que tu es très digne, Seigneur, d'être élevé, très digne d'être exalté, ô Seigneur. Et c'est pour cela que nous voulons encore ce matin, Seigneur, laisser éclater notre joie, Seigneur. Parce que tu es un Dieu merveilleux qui a tellement fait pour nous, Seigneur, que nous n'avons pas assez de mots pour pouvoir le dire, éternel Dieu. Mais entends nos cœurs, Seigneur. Entends le cri de notre âme, éternel Dieu. Car tout est pour toi, éternel Dieu. Toutes nos louanges, Seigneur. Toutes les louanges, Seigneur, sont pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu es le Dieu riche en bonté, lent à la colère, le Dieu miséricordieux. Amen. Je voudrais qu'on puisse chanter ensemble. Laissons éclater notre joie. Je laisse éclater ma joie. Est-ce que vous avez de la joie au cœur en ce matin? Ah, merci, frère. Est-ce que vous avez la joie au cœur? Ah, c'est bien ça. Il y a une église ici. Je laisse éclater la joie. Tout dans son palais, dit ce chant, s'écrie Hosanna. Du fond de mon cœur jaillit des Alléluia. Oui, des gloires à Dieu. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Je ne crie pas pour le prince de ce monde. Je ne crie pas pour les hommes de ce monde, pour les politiques de ce monde, mais je crie pour le Dieu vivant Jésus. Amen. Tout dans son palais s'écrie Hosanna, du fond de mon cœur jaillit Alléluia. Je laisse éclater ma joie, je crie pour le roi des rois. Les tambours résonnent avec les instruments. Devant le Seigneur monte un nouveau chant. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Il est le Seigneur, rendons-lui nos hommages. Et réjouissons-le chaque jour davantage. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Alléluia, allez, alléluia, allez. Alléluia, tout dans son palais, tout dans son palais s'écrie Hosanna. Du fond de mon cœur jaillit Alléluia. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Les tambours résonnent avec les instruments. Devant le Seigneur monte un nouveau chant. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Il est le Seigneur, rendons-lui nos hommages. Et réjouissons-le chaque jour davantage. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Chantons, chantons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons, dansons pour le roi des rois. Alléluia, allé, alléluia, 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 alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Digne, digne. Digne d'être loué, digne d'être exalté. Alléluia. Voulons encore continuer à exalter notre Seigneur. Il y a le psaume 63 qui, un psaume qui parle beaucoup aussi. Hein, c'est David alors qu'il était dans le désert de Juda, il était encore persécuté. David a passé sa vie un peu pourchassé. Mais à travers dans toute sa quête, en fait, il continue à proclamer le nom du Seigneur, à le louer. Il dit, mon âme a soif. Oh Dieu, pardon. Oh Dieu, tu es mon Dieu. À partir du verset 2, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, et avec ma bouche te chantera, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à me ôter la vie iront dans la profondeur de la terre, ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. À travers toute sa quête, toutes les persécutions, il dit quand même, mes lèvres te célèbrent, je bénirai donc toute ma vie. Donc, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, nous devons aussi avoir ce cœur disposé quand même à louer notre Seigneur. Et on a vu David, il est sorti victorieux. Alors donc nous aussi, nous sortirons victorieux à travers aussi, si nous continuons à garder aussi un cœur disposé à la louange. Et je voudrais qu'on prenne ce chant aussi. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous permettent de pouvoir louer notre Seigneur, ont été inspirés profondément par la parole. Et là, le chant que nous allons prendre est absolument tiré de ce psaume 63. Avec des cris de joie. Vous le connaissez, ce chant, hein? Voilà. Donc, il reprend ce verset, verset 6 du psaume 63. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, et scellé sur ma couche, je médite sur toi les veilles de la nuit,
Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'élèverai mes mains et te célébrerai.
Amen. Est-ce que vous pouvez lever la voix vers l'Éternel? Est-ce que quelques-uns peuvent? Puis, de même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. C'est pourquoi nous t'adorons, nous adorons Adonai.
Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom, ton grand nom. Nous te louons, Seigneur.
Amen, amen.
L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom.
Rendons-lui la gloire.
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire.
Amen. Amen. Par parce qu'il est digne, nous devons faire de nos vies une offrande qui lui fait plaisir, qui lui soit agréable. Parce qu'il est ce roi saint et sans tache, nous devons être fermes face à l'adversité, face à ce monde en folie, face à la tentation qui nous conduit par manque de vigilance au péché. Parce qu'il est digne. Soyons vraiment des louanges, des offrandes d'agréables odeurs. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ces temps, Seigneur, que nous passons, Seigneur, ensemble, Seigneur. Comme le faisaient, Seigneur, tes disciples, Seigneur. Ils affectionnaient ces temps ensemble où ils parlaient de toi, éternel Dieu. Ils se rappelaient, Seigneur, ta parole, éternel Dieu. Où ils passaient leur temps aussi à te louer, Seigneur, à élever leur voix vers toi, éternel Dieu. Nous voulons vraiment vivre aussi cela et nous te disons merci parce que tu nous donnes à vivre, Seigneur, malgré tout dans ce pays, Seigneur, en sécurité et libre aussi, Seigneur, de pouvoir t'élever, éternel Dieu, alors que nous puissions vraiment chérir ces temps ensemble, éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé, Seigneur, dans la louange et dans l'adoration, éternel Dieu. Que vraiment, Seigneur, nos vies puissent ressembler simplement à ces moments, éternel Dieu. Vraiment, chaque jour que tu fais, Seigneur, que nous puissions soupirer, Seigneur, à te louer et à t'adorer, éternel Dieu. Merci aussi maintenant pour ta parole, Seigneur, qui sera donnée à travers la bouche de ton serviteur, Teddy, éternel Dieu. Que là aussi, Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, à pouvoir avoir l'oreille attentive, éternel Dieu, pour pouvoir écouter, Seigneur, ce dont tu as mis, Seigneur, en réserve pour nous, Seigneur, à travers la bouche de ton serviteur. Vraiment, que tu puisses encore le fortifier et lui donner, Seigneur, à ne point retrancher, Seigneur, aucune des paroles, Seigneur, que tu as mis dans son cœur, éternel Dieu. Et que vraiment, Seigneur, que ces paroles servent, Seigneur, à l'édification de ton Église, éternel Dieu, et à sa progression, éternel Dieu. Corrige-nous, Seigneur, si nous avons besoin d'être corrigés, éternel Dieu. Mais que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés, éternel Dieu. Que cette parole ne soit pas mise, Seigneur, de côté, simplement, Seigneur. Mais que notre vie durant, Seigneur, et en sortant de cette église aussi, Seigneur, que nous puissions la mettre en pratique, éternel Dieu. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous voulons faire bon accueil à Teddy.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé dans la louange, adorer ce nom si merveilleux. Et j'écris l'introduction, mais voilà. Dieu fait jaillir en nous louange et adoration. C'est lui qui fait jaillir en nous louange et adoration. Nous ne pouvons pas l'adorer par nous-mêmes. Et à travers les chants que nous avons vus ce matin, nous voyons que c'est les louanges qui sont montées, les témoignages, tout ça c'est parce qu'il a fait quelque chose dans nos vies. Et en retour, nous exprimons ce que Dieu lui-même, par le biais de Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, qu'il a fait en nous. Et ce matin, le texte que nous allons voir, c'est un texte qui s'inscrit également dans cette même lignée, en fait. Une femme qui à certains égards nous ressemble. Cette femme à certains égards elle nous ressemble, elle ressemble aux hommes au fait. Quand je dis aux hommes, à l'humanité. Et on pourrait avoir une humanité qui croit, une autre qui ne croit pas, mais celle-là, dans le cheminement qu'elle a eu, à cet instant, Dieu a fait jaillir en elle quelque chose de fort, des louanges. On a parlé, il y a eu ce chant qui dit « Mon âme, ô Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche. » On est comme sur une terre desséchée et mon âme soupire après toi. Et nous pouvons constater que lorsque nous regardons notre vie passée, pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, et quand nous regardons ceux qui sont aussi nos frères et sœurs, ceux qui partagent, nous avons cette humanité ensemble, et qui sont éloignés de Christ, et nous voyons certains désordres qui sont là dans le monde dus au péché, et il y a une aspiration profonde qui est là, qui est au fond du cœur, et le péché a mis une séparation entre le Créateur et sa créature. Et du fait, l'homme n'a de cesse de chercher son Créateur, et il va chercher dans tous les moyens, par tous les moyens, il va chercher à combler ce vide qui est là. Que ce soit par son travail, que ce soit par l'argent, etc., les relations qu'il peut avoir, distractions, etc., etc., il va chercher à combler ce vide-là. Mais vous savez, on a connu cette période de canicule. Et lorsqu'on a soif, on nous dit, buvez suffisamment d'eau. Il faut boire de l'eau. Et même si vous n'avez pas soif, même si la sensation de soif n'est pas là, buvez. Alors, on va boire. En période de canicule, on va boire. Et peut-être qu'on a fait l'expérience, on va peut-être se dire, ah, il y a un verre de jus, je vais prendre un verre de jus, mais la soif n'est toujours pas étanchée. Il nous faut de l'eau. Tu peux boire Coca-Cola, jus naturel, tout ce que tu veux. Tu peux prendre un fruit qui a de l'eau. Tu vas te dire, non, il me faut de l'eau pour étancher cette soif. Et je crois qu'on a tous fait cette expérience-là. Et je crois qu'avec Dieu, c'est la même chose. Tu peux essayer de remplacer Dieu par tout ce que tu veux, mais seul Dieu peut remplacer Dieu. Seul Dieu peut remplacer Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus grand que Dieu. Et seul Dieu pouvait combler ce manque. Seul Dieu pouvait venir sur terre s'incarner pour nous réconcilier avec lui. Et à travers ce texte que nous allons lire, le titre du message ce matin, c'est « Jésus, la source d'eau vive ». On va s'appuyer sur le texte de Jean 4. Au fait, je vais lire Jean 4 de 10 à 14 maintenant. Et ensuite, on va détailler de 4 à 26 pour la suite du message. Je fais lecture. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Pardonnez-moi. Je vais lire à partir du verset 10, comme inscrit. Jésus lui dit, « Si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jusqu'ici. Ensuite, on reviendra sur les autres versets. Avant d'aller plus loin dans ce que nous voulons tirer de ce texte pour nous, on va essayer de comprendre déjà le but de Jean. L'apôtre, lorsqu'il écrit, vise à montrer déjà trois grandes lignes, dans trois filtres à travers lesquels on peut lire l'évangile. L'incarnation de Jésus. Et il commence l'évangile comme ça, en Jean 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et on connaît tous ce passage. Là, il nous montre que la parole est devenue chair. La parole qui est le Fils, qui est Dieu, est devenue chair. Il a pris cette forme humaine pour venir chez les siens. Le deuxième but visé par Jean, toujours dans le premier chapitre, au verset 18, c'est la révélation. Le verset 18 nous dit que c'est celui qui est dans le sein du Père, le Fils éternel, celui qui était dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est lui, Jésus, le Fils, qui était dans le sein du Père, c'est lui qui a fait connaître le Père. Et le troisième but de Jean, qui est le chapitre Jean 1, verset 12, est-ce qu'on le connaît, celui-là? Car à tous ceux qui l'ont, car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels vont naître non de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Et voilà le but de l'apôtre. Révéler que Jésus est Dieu, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et ce qu'il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Il fallait donc une révélation. Là, le texte s'inscrit dans le discours, comme on l'a vu, de Jésus-Christ à la Samaritaine. Et on a parlé d'eau vive. Je vais juste essayer d'éclaircir un peu sur cette notion d'eau vive. Quand Jean écrit sur l'eau vive, c'est une notion qui remonte déjà à l'Ancien Testament. Déjà, les prophètes en avaient parlé. Ézéchiel en a parlé. Joël en a parlé. Zacharie, et là, Jean prend les propos de Zacharie. Eau vive, l'expression eau vive se trouve dans Zacharie. Chapitre 11 de Zacharie. Et Jésus... Jean présente Jésus comme cette eau vive. L'eau vive, celle qui donne la vie. Que lorsqu'on regardait chez les prophètes, cette eau vive, elle sortait du temple et elle purifiait. Elle guérissait, elle donnait la vie. Cette eau vive sortait du temple et coulait parfois dans Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem. Chapitre 2 de Jean. Là, Jésus dit, je suis le temple. Jésus s'inscrit, je suis le temple. Du fait, l'eau vive qui est là, c'est Jésus, elle vient de lui. Donc, c'est à travers ces filtres que nous allons comprendre, essayer de comprendre ce que Jésus a amené à cette femme, à cette Samaritaine. Donc, ce matin, on va avoir trois, comme d'habitude, avec nos trois points. Jésus qui est la source d'eau vive, et cette eau vive, elle vient vers nous. Deuxièmement, nous allons voir que cette eau vive aussi, elle nous libère, et enfin, elle révèle le rôle du Père, l'œuvre du Père en nous. Jésus, l'eau vive qui vient vers nous. Alors, j'avais commencé à lire par là. On dit que Jésus, lui, il arrive, il passe par la Samarie. Et de son voyage, il est fatigué. Donc il va s'asseoir près d'un puits. Puis que Jacob avait laissé à ses fils, Jacob a pu puiser dedans, boire, faire boire ses enfants, même ses troupeaux, et l'a laissé en héritage à ses descendants. Et là, on est à Samarie. Et on se dit, à la sixième heure, il y a une femme qui vient, qui sort de là et qui vient aussi puiser de l'eau. Donc, et là, Jésus va lui demander, va lui dire, donne-moi à boire. Voilà, le tableau est posé. Jésus, là, fatigué, Jean met en exergue, nous montre que Jésus, il est homme. Donc il a marché sous le soleil chaud et à un moment donné il a soif. Il a soif. Donc il va se mettre posé près du puits. Il n'a pas de quoi puiser dans l'eau, mais il va attendre, il va rester là. Il va se dire, oh, bizarre. Et il y a une femme qui sort à la sixième heure, donc il est midi. Cette femme, elle sort pour puiser de l'eau. Mais de coutume, on vient puiser de l'eau, les femmes venaient puiser de l'eau un peu plus tôt, soit un peu plus tard. Mais jamais à l'heure où il y a une forte chaleur, en fait. Généralement, les femmes sortaient en groupe. Elles sortaient en groupe et allaient chercher de l'eau, parce que c'était leur rôle. Elles y allaient, aller chercher de l'eau pour amener pour la maisonnée. Mais là, elle est seule, à midi, à l'heure où la chaleur est au summum, le soleil à son zénith, elle est là. Et là, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et elle va répliquer, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Et le commentaire nous dit que les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Prenons ce temps avec cette femme qui sort seule. Un peu plus tard dans l'œuvre, quand Jésus continuera avec elle, on va comprendre pourquoi elle sort à cette heure-ci seule. En plein midi, où il n'y a pas de femme, où elle est à l'abri des regards presque, et elle sort, elle va chercher de l'eau. Le texte nous révèle plus tard qu'elle a certains problèmes conjugaux. Elle a eu 5 maris. Peut-être une femme qui sort de là, mais accablée déjà par ses soucis, accablée par la honte qu'elle ressent par rapport à sa situation, et elle sort, elle se cache, elle se prive, elle sort du groupe, au fait. Elle est sortie du groupe. Peut-être la pression du groupe, on la pointe du doigt. Et elle est là, il faut qu'elle remplisse ses tâches quotidiennes, mais elle va trouver quelque chose, un subterfuge pour se protéger elle-même. Donc elle ira à midi, c'est pas grave, le soleil est un peu plus chaud, c'est pas grave. Mais j'irai là, il n'y aura pas les regards sur moi, il n'y aura pas de parole sur moi. Donc je me cache. Mais là, il y a Jésus qui est là, et Jésus lui dit, mais donne-moi à boire. Et là, sa réponse aussi, elle est marquante. Pose certaines choses qui sont là dans la vie, dans la communauté, qui pèsent sur cette femme. On va voir qu'il y a le problème, on dit, mais tu es un homme, je suis une femme. Déjà, il y a déjà un problème entre un homme et une femme, comme ça à cette époque, on ne peut pas se parler. Mais de sur quoi tu es un homme juif et moi je suis une samaritaine. Alors comment t'abaisses-tu peut-être à me parler? N'as-tu pas peur, on peut le lire comme ça en filigrane, n'as-tu pas peur de te souiller? Parce que pour le juif, passer en Samarie égale souillure. Quand un samaritain touche un objet ou on passe à Samarie, on est impur rituellement. On peut pas aller adorer comme ça. Il faut qu'on aille se doucher, il faut qu'on se baigne, fasse ses bains rituels. Et là, Jésus est assis sur le puits. Il est à Samarie, il s'assit à côté du puits. Il lui demande, donne-moi à boire. Être une femme à cette époque-là n'était pas chose facile. Déjà. Et sa situation conjugale nous montrait déjà qu'elle n'était pas, ça pesait sur elle. Mais autre chose, c'est-à-dire qu'elle est samaritaine. Et entre les juifs et les samaritains, il y a un conflit. Certains disent que les juifs sont vraiment ceux qui adorent Dieu. Et les samaritains sont hérétiques. Donc ce ne sont pas vraiment des juifs. Suite à la déportation, il y en a qui sont venus, qui ont eu des descendants de colons, donc ce ne sont pas vraiment des juifs. Ils pratiquent, ils ont une forme de piété juive, mais en pointe de doctrine, enfin d'une religion extérieure à la piété juive. Donc ils ne sont pas comme nous. Il y a déjà ce rejet qui est là. Cette femme, rejetée parmi les siens parce qu'elle vit une situation désastreuse de manière conjugale sur sa vie de famille, sur sa vie sentimentale, sa vie personnelle, mais rejeté aussi par rapport à sa communauté, où elle est étrangère, où elle se dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et là, elle va dire à Jésus, mais voilà, cette réponse-là, mais toi qui es là, pourquoi tu me demandes à boire, toi qui es juif? C'est chose que même les chefs religieux n'ont pas osé, peut-être n'ont jamais osé faire, s'arrêter en Samarie. Si on s'arrêtait en Samarie, c'était, il y avait une vraie cause. Mais je crois que là, il n'y a pas de hasard avec Dieu. On pourrait croire que les événements s'enchaînent au hasard. Mais je crois que derrière cette rencontre, il y avait déjà un rendez-vous divin préparé par Dieu lui-même. Connaissant la vie de Jésus, Jésus qui ne fait rien au hasard, je fais la volonté du Père. Et plus tard, au verset 34 du même chapitre, il dira à ses disciples, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Donc Jésus ne se lève pas au petit bonheur la chance et on marche comme ça et on verra ce qui se passe. Non, il est à l'écoute de Dieu. Donc il y a un rendez-vous qui est déjà préparé par Dieu et qui voit cette femme qui est là. Et je crois que nos vies, dans ce sens que je dis que nous ressemblons un peu à cette femme. Un jour, Jésus a eu un rendez-vous avec nous. Il a pris rendez-vous avec nous. On ne sait pas comment ni pourquoi, mais un jour, quelqu'un est venu nous apporter l'évangile. On a eu une réaction positive tout de suite ou pas, mais il y a eu un rendez-vous. Et un jour, certainement, pour nous, ce rendez-vous-là était décisif. Jésus donne des rendez-vous. Il prend comme ça des rendez-vous. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qu'il doit révéler. Il doit nous révéler, il doit nous montrer dans nos vies. Il veut que quelque chose change. Et c'est ce qu'il dira à cette femme. C'est ce qu'il dira à cette femme qui nous conduit à notre second point. La femme qui lui dit, mais toi, pourquoi tu me demandes à boire? Mais Jésus lui dit, mais si tu savais qui te demandait à boire, tu lui demanderais toi-même à boire. Mais une eau spéciale. Jésus lui fait comprendre qu'il est, disons ça, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais qui te parle. La femme, par sa réponse, a voulu mettre Jésus dans une catégorie. Homme, juif. Oui, Jésus est un homme, s'est fait homme, et il est né dans sa patrie chez les juifs. Il fallait qu'il s'incarne, il fallait qu'il choisisse un peuple, et Dieu avait choisi ce peuple, donc il est venu. Et oui, c'est un homme, pleinement homme aussi, et nationalité là, juive. Mais Jésus ne se laisse pas enfermer dans cette catégorie. On peut faire comme moi, je dis, tu es français, oui, je suis français, mais on dit ça avec les enfants, je suis guadeloupéen. tu peux t'enfermer dans ton truc, là. Tu peux t'enfermer dans ta patrie, dans d'où tu es, de ta terre, tu vois. Tu peux t'enfermer là, mais Jésus, oui. Jésus, tu es homme, oui, je suis homme. Tu es juif, oui, je suis juif. Mais si tu savais vraiment celui qui te dit, qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus fait déjà, dans sa présentation, quelque chose de... Il ouvre un peu l'esprit, la compréhension de cette femme. Il va lui dire, don de Dieu. Jésus est un don de Dieu. Il lui fait comprendre qu'il est déjà don de Dieu. Mais un don de Dieu auquel l'eau vive et attaché. Pas d'eau vive sans le don de Dieu. Pas d'eau vive sans le cadeau de Dieu. Il est celui, ce don de Dieu qui vient avec l'eau vive. C'est lui qui détient cette eau vive, cette eau qui donne la vie, cette eau qui revivifie. Et la femme ne comprend toujours pas. La femme ne comprend toujours pas. Elle va rétorquer quelque chose, encore quelque chose qui est totalement humain. Mais il va dire, mais es-tu plus grand que... Es-tu plus grand que notre père Jacob? Parce que pour elle, toujours Jésus, c'est un... Oui. Et Jean fait exprès, il le marque pour dire, c'est un homme. Mais pour encore cette femme, dans sa tête, c'est un homme ordinaire. Encore un homme qui... On comprend bien que sa confiance dans les hommes, elle est... Elle en a eu 5. Elle est avec quelqu'un avec qui elle n'est pas mariée. Mais on peut comprendre que sa confiance dans les hommes, elle est vraiment basse. Elle voit un homme, elle dit, ok, beau, tu es peut-être un beau parleur. Oui, tu parles bien, ouais, ok. Don de Dieu, ouais, ok, ça marche. Mais elle est piquée un peu, cette femme, et elle dit, mais es-tu plus grand que notre père Jacob? Qui a puisé, toi, tu n'as rien pour puiser, tu me parles de me donner de l'eau vive. Et toi, tu es assis là et tu me demandes à boire, tu n'as rien pour puiser dans cette eau. Et là, tu me dis que tu es capable de me donner une eau vive. Alors, es-tu plus grand que Jacob? Et bien souvent, quand on présente à certaines personnes l'évangile, on va dire, ouais, mais ton Jésus là, mais pourquoi pas, on va faire appel à la religion de nos ancêtres. C'est ce qui est un peu à la mode ces jours-ci chez nous. Pourquoi Christ et pourquoi pas un autre? Pourquoi cette voie-là et pourquoi pas une autre voie? Moi, mes parents m'ont fait grandir dans cette religion-là, je la garde parce que, voilà, est-ce que ton Jésus est plus grand que ça? Et Jésus lui fait comprendre que quiconque boit dans cette eau, dans le puits, aura encore soif. Et c'est ce que nous disions en préambule. Ce puits peut symboliser à certains égards plusieurs substituts que nous nous donnons pour remplacer Dieu. Nous avons peut-être à certains égards plusieurs substituts pour remplacer Dieu, auxquels nous disons, on va chercher le bonheur, on va se soulager là. Souvent, pour nous jeunes, on va se soulager, vous allez dire, hey, la jeunesse, pourquoi tu vas à l'église? Mais non, viens boire. Et c'est facile pour des jeunes qui partent, vous qui partez en études et tout ça. Parfois loin des parents, et on se dit, mais c'est l'occasion de se dire, mais ton Dieu là, mais regarde, t'as que tristesse et tout ça. Viens t'amuser avec nous. Et en grandissant, on peut trouver toute forme de choses pour se dire, ok, on a un mal intérieur qui nous ronge, mais on va essayer de trouver toute forme de choses intérieures pour calmer cette soif intérieure. On va vouloir la substituer à la vraie source d'eau vive. Et Jésus lui dit, mais toi, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Et c'est normal, c'est naturel. C'est normal, c'est naturel. Tu viendras là, mais tous les jours, tu reviendras là. Tous les jours, tu reviendras là parce que c'est ta condition humaine. Si tu veux trouver un substitut dans un travail, mais normal, tous les jours, tu iras travailler. Parce que nous sommes faits pour aller travailler. C'est la condition humaine. Mais Jésus lui parlait d'autre chose. Quelque chose qui a le pouvoir d'étancher une soif un peu plus profonde. Quelque chose qui va, au lieu d'étancher une soif, mais au contraire, va devenir un fleuve. Toi qui as soif maintenant, devient quelque chose qui découle. Vous avez déjà rempli une vasque, laissé vasque d'eau dans la salle de bain, mais à force de remplir, à un moment donné, ça peut déborder en fait. ça peut déborder. Si vous remplissez trop un verre, il va déborder. Et Jésus, on a un peu cette image-là, de quelque chose que Jésus va remplir, mais qu'à un moment donné, ça va déborder. C'est obligé de déborder. Ce qu'il veut te donner, ce n'est pas seulement pour toi, mais il faut que ça rejaillisse. Alors la femme qui va lui dire, cette femme qui répond à « Es-tu plus grand que Jacob ?» lui fait comprendre à Jésus, mais « Ouais, mais tu sais, nous aussi on fait partie, on a notre descendant qui est juif, c'est Jacob. On le partage aussi et souvent on veut ramener ça à Jésus, le mettre dans cette case-là, dans cette case, petite case. Et Jésus veut nous donner quelque chose qui dépasse ces limites-là. Beaucoup de réponses similaires chez ceux à qui nous pouvons prêcher l'évangile. Et on a dit ça. Parfois, vous allez avoir des personnes qui reçoivent l'évangile avec joie. Et parfois, vous en avez qui sont un peu plus rebelles. Mais c'est normal. Totalement, totalement humaine. En lui faisant comprendre les limites qu'a ce puits, cette femme, il y a quelque chose qui la tracasse. Il y a quelque chose qui la tracasse. Tu me dis, ok, je veux bien croire que ce puits-là, il ne me donnera pas. Alors, mais donne-moi de cette eau. Il va dire, mais donne-moi. Mais en pensant que Jésus encore est toujours un homme qui a un beau discours, en fait. Jésus est celui qui a un beau discours. On est sur cette deuxième partie. Donne-moi à boire afin que je n'ai plus soif et que je revienne plus puisé ici. On va se dire, mais voilà, t'as une belle parole là. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, finis les tâches ménagères. En plus, mon problème où on me regarde là, je pourrais rester tranquille chez moi. On ne me verra plus. On ne parlera plus sur mon dos. Comme ça, je suis tranquille, au moins là. Alors, toi qui peux faire ça? On sent un peu une petite ironie là. Toi qui as cette eau magique là. Si tu peux faire ça pour moi, ben donne-la moi. Mais derrière cette ironie, le mal qui la ronge est toujours là. Elle veut dissimuler le fait que, comme on avait vu, elle est sortie à 6 heures, de la 6e heure à midi. Le regard qui l'apaise, le fardeau qui est sur elle là, qui la mine et qui lui permet de faire des choses un peu pas comme tout le monde. Elle fait les choses un peu, mais voilà. Et là, elle va se dire à Jésus, voilà une opportunité pour que tu... Oui, si tu peux faire ça, côté magique, ah ben, fais-le. Donne-moi cette eau à boire. À Jésus lui dire, va chercher ton mari. Jésus va déceler quelque chose qui est vraiment plus profond. Va chercher ton mari. Va chercher ton autorité. Va chercher celui avec qui... Bon, mariage, celui avec qui tu as fait alliance. Moi, je suis un homme, je respecte aussi ton autorité. Va le chercher, celui qui a autorité sur toi. Et à elle de dire, je n'ai pas de mari. Ce qui lui faisait honte, ce qu'elle, lorsqu'elle sortait à midi pour éviter les autres femmes, c'est ce qu'elle essaie de dissimuler au fond. Jésus met le doigt dessus. Combien de nos compatriotes, combien de nous-mêmes, nous avons connu des choses qui nous font mal, qu'on essaie de dissimuler. Et nous, parfois, quand on nous présente l'évangile, on voit cet évangile-là juste pour le petit moment, qu'à dissimuler le côté magique. Jésus va te... Mais viens à l'évangile. tu as des problèmes financiers, ben, tu donnes la dîme et finalement après ça s'arrange. On a déjà entendu ça. Tu as des problèmes pour te marier, ben, viens à l'église, donne ta vie à Jésus, Jésus va te donner un mari. Et beaucoup de personnes, parce que Jésus solutionne. Jésus est devenu le quimboiseur du coin. Il solutionne les petits problèmes, les petits bobos. Donc, on va remplir les églises comme ça. Mais Jésus ne veut pas s'arrêter à ça. Verbaliser ça. Pour la libérer. Elle admet, je n'ai pas de mari. Elle voit sa situation, elle regarde sa situation. Pour une des premières fois, elle regarde sa situation en face et elle a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus qui lui raconte sa vie, il dit, et là son regard sur Jésus change, il dit, je vois que là que tu es prophète. On a déjà, dans le cheminement de la femme, on a déjà un cheminement. Et Jésus est passé d'un homme simple à déjà un prophète. Un prophète, celui que Dieu à qui Dieu parle. Donc maintenant, il y a un intérêt nouveau qui est là. Il y a son problème qui est là, qui la tient captive. Mais là, il y a un autre intérêt qui est là. Et qui, elle va se dire, mais, et là on passe à notre troisième point. Ce que Dieu est en train de faire. On va se dire, mais il dit, la femme lui dit, mais je vois que tu es prophète. Mais nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que ce lieu, il faut adorer. Et à Jérusalem. Il dit, mais Jésus vient de te parler de ton mari et tout ça. Et là, tu parles de. Tu as dit à Jésus, oui, c'est bien ça. Et là, tu dis, je vois que tu es prophète. Mais, et là, tout de suite, tu commences à parler d'adoration. D'adoration. Et vous dites que ce lieu, il faut adorer, est à Jérusalem. Nous, on dit qu'il faut adorer sur le mont Garizim, mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. On aurait pu penser que c'est une esquive de cette femme. Au contraire. Elle se sent en confiance pour parler de quelque chose encore de plus profond. De son mal le plus profond. Là, elle se sent à l'aise pour parler avec l'homme de Dieu qui est face à elle. Mais explique-moi, j'ai soif, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Mon vrai désir, ma vie, c'est vrai, ma vie, elle est fracassée. Mais mon vrai désir, c'est de pouvoir adorer Dieu, c'est de pouvoir communier avec lui. Voilà le vrai désir, voilà ce qui la ronge. En tant que samaritaine, rejetée par les juifs, elle dit, mais nos pères on a le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres à Samarie, c'est ce qu'ils étudiaient. C'était leur livre reconnu comme canonique. C'est ce qu'ils avaient. Ils disaient, ouais, mais on veut adorer ce Dieu-là. Mais les juifs nous rappellent sans cesse que vous êtes dans le faux. Et moi, je veux. Il y a cette aspiration qui est là au fond d'elle, qui dit, mais je veux rentrer en communion avec ce Dieu. Et Jésus de répondre, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pardon. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'heure vient. C'est vrai qu'il y a un parcours brisé et tout, mais une des aspirations profondes de cette femme est, je dis, elle représente un peu cette humanité que nous sommes. Ce vide qui est là. Nous avons besoin de se dire, mais comment adorer vraiment, comment être réconcilié avec ce Dieu-là. Et Jésus dit, mais le Père est en train de faire quelque chose de nouveau. Ceux qui adoreront ne seront plus distingués par cette montagne ni par ceux qui sont à Jérusalem, mais par quelque chose de tout à fait nouveau. Et Christ est en train de lui dire avec des mots presque voilés qu'il est venu. Son heure à lui est là. Il est en train de travailler à ce que la parole que les prophètes avaient annoncée dans l'Ancien Testament, cette eau vive qui purifie les cœurs, cette eau vive qui ravive, cette eau vive qui ressuscite ceux qui étaient morts, cette heure-là est arrivée. Il est arrivé. Et cette femme qui ne comprenait pas me dit, mais je sais que le Messie, elle parle du Messie. Et c'est vrai que dans le Deutéronome, on sait que Moïse avait promis que suscitera parmi le peuple, dans le peuple, un autre leader. Et on attendait ce leader-là, le nouveau Moïse. Tout le monde attendait ce nouveau Moïse. Et là, le nouveau Moïse est devant elle. Jésus lui dit, elle dit, quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Ce Messie, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et là, on voit cette femme, la vie de cette femme change. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Plus tard, au verset 28, on va dire qu'elle a laissé sa couche d'eau. Elle a laissé sa couche d'eau et elle va courir, elle court au village. Elle court dans la ville annoncée. Venez voir. Venez voir ce que cet homme, il m'a dit ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? Elle qui avait honte. Elle qui avait honte de sa situation, maintenant, il y a quelque chose qui s'est produit en elle qui a bouleversé sa vie. Et là maintenant, ce dont elle avait honte, mais ça passe au second plan. J'ai besoin d'aller l'annoncer. J'ai besoin d'aller l'annoncer à ceux et celles qui sont dans le village, qui connaissent aussi ma vie, parce que je me cache d'eux. Ils connaissent aussi ma vie. Mais j'irai leur dire, on a cette espérance-là. Serait-ce pas lui le Messie, celui qui doit sauver le monde? Le peuple de Samarie avait soif. Le peuple de Samarie avait aussi soif. Et à travers cette femme, Jésus va toucher le peuple de Samarie. Le monde a soif. Et à travers nous, Dieu veut toucher le monde qui a soif. Si Jésus nous sauve, maintenant cette œuvre, elle est accomplie. Alors il parlait à la femme, il n'était pas encore mort. Après la mort, Jésus, quand il est ressuscité, on comprend bien, il dit à ses disciples, vous irez à Jérusalem, mais tout de suite après, vous irez en Samarie. Il y avait déjà une œuvre, il y avait des graines qui étaient plantées. Cette femme, elle faisait partie de ceux et celles qui croyaient. Elle faisait partie de ceux qui croyaient. Et quand on a annoncé la résurrection de Jésus, la venue de l'Esprit, je crois que cette femme était parmi. Le texte ne le dit pas, mais je crois que cette femme et ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur du monde étaient là, recevant le Saint-Esprit. Le monde a soif. L'œuvre du Père qui se déroule au travers de Jésus. Où on n'est pas obligé d'être à Jérusalem, ni dans une, même ici. C'est plus ça le cas. C'est à ceux qui ont cru, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il fait quoi? Il témoigne. Et c'est ce que on a vu, ce que je dis en substance, en Jean 4, à la fin du récit de la Samaritaine. Elle a été. Qu'est-ce qui s'est produit? Plusieurs. On ne dit pas tous. Hein? Plusieurs. Mais pas tous. plusieurs ont cru. Et il disait, verset 42, je vais lire le verset 42, il disait, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Si nous ne partageons pas, Dieu a mis cette source d'eau vive en nous, afin que nous puissions aussi partager, parce que nous sommes dans un monde qui a soif de Dieu. Soyez bénis.